Il est bien rare que dans le journal du matin, il n'y ait pas un article concernant une affaire. Quelqu'un qui a profité de sa position pour se garnir les poches. Ceux qui se font prendre la main dans le sac appartiennent à tous les milieux, politiciens en tête, bien sûr. Mais la corruption n'est pas une pratique nouvelle, c'est vieux comme le monde, et c'est pour cette raison que les pompes à essence ou les balances publiques sont vérifiées par le Bureau des poids et mesures. Je continue de lire dans le chapitre 45 du livre d'Ézéchiel. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. « C'en est assez, prince d'Israël. Mettez un terme à la violence et au pillage. Appliquez le droit et la justice. Cessez d'expulser mon peuple de ses terres. » Le Seigneur l'Éternel le déclare. « Ayez des balances justes. » L'Ancien Testament aborde souvent la question des poids et mesures justes. Les princes d'Israël sont les chefs des 12 tribus, et pendant le millénium, ils auront à charge de faire régner la justice, alors que dans le passé, ceux qui dirigeaient le pays avaient la fâcheuse tendance à opprimer ou extorquer le petit peuple. Je continue plus loin. Dans toutes les fêtes cultuelles de la communauté d'Israël, c'est lui, le prince, qui pourvoira au sacrifice pour le péché. À l'offrande, à l'holocauste et au sacrifice de communion afin de faire l'expiation pour la communauté d'Israël. J'ai déjà dit que, pendant le millénium, l'un des buts des sacrifices sera de réconcilier celui qui a enfreint la loi avec le gouvernement messianique, un peu comme quand on paie une amende. Mais ces sacrifices se rappelleront aussi que Dieu est saint, et que lui obéir est une faute très grave quand on ne le fait pas. De plus, ils commémoreront le sacrifice du Christ, car la vue de ces animaux égorgés, brûlés, rappellera ce que Jésus a dû endurer et souffrir pour racheter l'humanité, et donc combien notre salut éternel est précieux. Enfin, pendant le règne de leur Messie, les Israélites obéiront scrupuleusement à la loi théocratique du royaume, y compris l'observation des fêtes avec les sacrifices qui sont attachés, alors que dans leur histoire, ils n'ont observé les prescriptions de la loi que de manière épisodique et très désinvolte. De ce fait, ils compenseront d'une certaine manière la rébellion de leurs ancêtres. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Je continue. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Le jour de l'an, on prendra un jeune taureau sans défaut et l'on fera l'expiation pour le sanctuaire. Le prêtre prendra du sang de la victime du sacrifice pour le péché et en appliquera sur les montants de la porte du temple, sur les quatre angles du socle de l'autel et sur les montants de la porte du parvis intérieur. Le premier mois de l'année religieuse israélite se situe à cheval sur mars et avril. La cérémonie décrite a lieu au moment de la première nouvelle lune de l'année et commence par un sacrifice d'expiation qui précède l'holocauste habituel des nouvelles lunes. Son but est de purifier le sanctuaire, rituellement bien sûr, puisque, comme l'écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il est impossible que du sang de taureau et de bouc ôte les péchés. Sous la loi de Moïse, dans les sacrifices d'expiation, du sang est aspergé devant le voile du lieu très saint, sur les cornes de l'autel, des parfums et au pied de l'autel des holocaustes. Ici, l'aspersion est faite sur les montants de l'entrée du sanctuaire, puis sur le cadre de l'autel des holocaustes. Et enfin, sur les montants de la porte qui donne accès à la cour des prêtres où le simple israélite ne peut pas entrer. Mais du parvis extérieur, on peut quand même voir l'offrande du sang versée à son intention. Je continue. On agira de même le septième jour du mois pour l'homme qui aura péché par ignorance ou par inadvertance. Vous accomplirez ainsi le rite d'expiation pour le temple. Cette seconde purification, qui est répétée le septième jour du mois, ne se trouve pas dans la loi de Moïse. Elle remplace le grand sacrifice annuel d'expiation appelé Yom Kippour. Dans le millénium, cette purification précédera la Pâque et sera faite au commencement de l'année. Son but est d'effacer rituellement tout ce qui a pu être oublié dans l'année écoulée. Je continue. Le 14e jour du premier mois, vous célébrerez la fête de la Pâque. Elle durera une septaine de jours pendant lesquels on mangera des pains sans levain. Le prince offrira ce jour-là un taureau en sacrifice pour le péché, pour lui et pour le peuple du pays. Pendant le millénium, la Pâque sera célébrée au même moment et selon les mêmes règles que sous la loi de Moïse. Je continue. Pendant les septaines de jours de la fête, il, le prince, offrira à chaque septaine un holocauste à l'Éternel, sept taureaux et sept béliers sans défaut, et un bouc en sacrifice pour le péché. Sous la loi de Moïse, la Pâque juive durait sept jours, mais celle du millénium s'étendra sur des septaines de jours. Une expression qui signifie 7 fois 7, donc 49 jours. La clôture de la fête se fera le 50e jour, ce qui correspond à l'ancienne Pentecôte qui, sous la loi, s'appelle la fête des 7 semaines. Je continue plus loin et finis de lire le chapitre 45. Le 14e jour du 7e mois, lors de la fête, il offrira pendant 7 jours les mêmes sacrifices pour le péché, les mêmes holocaustes, les mêmes offrandes et la même quantité d'huile. Cette fête est celle des cabanes, aussi appelée tabernacle. Nous arrivons au chapitre 46 d'Ézéchiel, qui règle les modalités des sacrifices pour le sabbat, les nouvelles lunes et les fêtes. Je commence à le lire. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. La porte orientale du parvis intérieur restera fermée les 6 jours de travail. Mais le sabbat et le jour de la nouvelle lune, elle sera ouverte. Le prince venant de l'extérieur entrera par le portique de la porte et se tiendra près du montant de la porte. Les prêtres offriront son holocauste et ses sacrifices de communion. Il se prosternera sur le seuil de la porte, puis se retirera, et la porte ne sera plus refermée avant le soir. La porte orientale, donnant sur le parvis extérieur, qui est la cour intérieure, est constamment fermée, parce qu'elle a été empruntée par l'Éternel en la personne du Messie. Il en sera de même de celle qui donne sur le parvis intérieur, c'est-à-dire la cour des prêtres. Seulement, les besoins du culte demandent à ce qu'elle soit ouverte de temps en temps. Le prince peut se tenir sur le seuil pour suivre l'offrande des sacrifices sur l'autel des holocaustes. Mais il ne lui est pas permis d'entrer dans la zone réservée au seul prêtre. Il ne possède plus les privilèges spéciaux qui étaient accordés au roi de Juda. Je continue plus loin. Et quand les gens du peuple viendront devant l'Éternel lors des fêtes cultuelles, ceux qui entreront par la porte nord pour se prosterner sortiront par la porte sud, et ceux qui entreront par la porte sud sortiront par la porte nord. On ne passera pas la porte par laquelle on sera entré, on sortira par la porte opposée. Par respect pour l'Éternel, celui qui participe au culte ne doit pas se contenter d'un simple aller-retour, mais traverser toute l'enceinte sacrée pour revenir sur ses pas. Je continue plus loin et finis de lire le chapitre 46. On offrira chaque jour en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. On l'offrira chaque matin. Le nombre de victimes offertes n'est pas arbitraire, mais proportionnel à la solennité des circonstances auxquelles chaque sacrifice se rapporte. Chaque matin, un agneau. Le jour du sabbat, 6 agneaux et un bélier. Pour la nouvelle lune, 6 agneaux, un bélier et un taureau. Pour la fête des cabanes, 7 béliers et 7 taureaux. Et pour Pâques, 7 béliers et 7 taureaux répétés 7 fois, c'est-à-dire un bélier et un taureau tous les jours pendant les septaines de jours, soit les 49 jours que dure cette fête. Ézéchiel explique ensuite comment le prince peut disposer de son patrimoine, mais en aucune façon il ne lui est permis de confisquer les biens d'autrui comme l'ont fait certains rois israélites. Puis l'ange fait visiter aux prophètes les cuisines des prêtres et celles pour le peuple lorsqu'ils mangent les animaux sacrifiés. Le souci d'une séparation stricte entre le sacré et le profane est toujours bien présent. Nous arrivons au chapitre 47, qui avec le 48 décrit la topographie autour du temple. Je commence de le lire. « L'homme me ramena vers l'entrée du temple, et je vis que de l'eau jaillissait de dessous le seuil du temple. Du côté oriental, la façade du temple était à l'est, et l'eau s'écoulait du côté sud de l'édifice en passant au sud de l'autel. Le guide amène Ézéchiel du parvis extérieur où il se trouvait au parvis intérieur, c'est-à-dire dans la cour des prêtres devant l'entrée du lieu saint du temple. Là, à ses pieds, il aperçoit une source d'eau qui jaillit et provient des fondations du sanctuaire. Ce ruisseau est une émanation de la vie divine. Ce phénomène est repris dans le livre de l'Apocalypse où l'apôtre Jean écrit « L'ange me montra le fleuve de la vie, limpide, comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. » Pour montrer à Ézéchiel ce que deviennent ces eaux, l'ange le fait sortir du complexe du temple, puis longer l'enceinte jusqu'à la porte et où elles réapparaissent après avoir traversé des murs et des terrasses. Selon le prophète Zacharie, ce cours d'eau se sépare en deux bras, l'un qui va à l'ouest vers la Méditerranée et celui que voit Ézéchiel va au sud-est en direction de la mer Morte. Cette mer fait environ 73 km de long et 11 de large en son milieu et elle a presque 400 mètres au-dessus du niveau de la Méditerranée. Elle est appelée « morte » parce que sa densité de sel, 6 fois supérieure aux autres mers, y rend la vie impossible. Je continue plus loin. L'homme s'éloigna vers l'est, un cordeau à la main. Il mesura 1000 coudées en aval et me fit traverser l'eau. Elle m'arrivait jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit de nouveau traverser l'eau. Elle m'arrivait aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. L'eau me venait jusqu'à la taille. L'ange et Ézéchiel s'éloignent de 565 mètres 2 fois de suite et le prophète traverse ce cours d'eau sans difficulté. Cependant, il constate que sa profondeur a augmenté, que c'est un véritable torrent sans l'apport d'un affluent. Ce phénomène extraordinaire montre que ces eaux ont la vertu de se multiplier d'elles-mêmes. Je continue. Il mesura encore 1000 coudées. Maintenant, c'était un torrent que je ne pouvais plus franchir car l'eau était si profonde qu'il fallait nager. On ne pouvait plus la traverser autrement. Il me dit, fils d'homme, as-tu vu ? Puis il me ramena sur le bord du torrent. Le guide veut dire, as-tu vu ce grossissement rapide ? Eh bien, il continue de la même manière. Maintenant, viens voir autre chose. Je continue le texte. Lorsque j'y fus revenu, j'aperçus sur les deux rives des arbres en très grand nombre. Quand Ézéchiel revient sur ses pas, il est surpris de voir de nombreux arbres sur les deux rives de la rivière, car ils viennent de pousser en un temps record, pendant que le prophète descendait le cours d'eau. Il a assisté à une explosion de vie, parce qu'à mesure que les eaux se reproduisent, elles font pousser des arbres. Je continue. L'homme me dit, ces eaux s'écoulent vers la région est du pays. Elles descendent dans la plaine du Jourdain et se jetteront dans la mer Morte. Quand elles se déverseront dans la mer, celle-ci sera assainie. Partout passera le double torrent, les animaux foisonneront et pourront vivre. Et il y aura beaucoup de poissons, car ces eaux viendront assainir la mer et la vie se développera sur le passage du torrent. Le cours d'eau issu du sanctuaire, qui devient une rivière, rejoint le Jourdain un peu au nord de son embouchure dans la mer Morte. Ensemble, ils forment alors un double torrent qui apporte la vie partout où il passe, et en particulier à la mer Morte dans laquelle il va se jeter. Je continue. Sur les rives de la mer s'établiront des pêcheurs depuis En-Gedi jusqu'à En-Glaïm. On étendra des filets et les poissons de toute espèce seront très abondants, tout comme dans la mer Méditerranée. En-Gedi est une petite oasis à la végétation luxuriante. Située à peu près au milieu de la rive occidentale de la mer Morte, la localité d'En-Glaïm est inconnue, mais probablement aussi sur la même rive. Je continue. Mais ces marais et ces lagunes ne seront pas assainis, ils seront laissés en saline. Au printemps, quand la mer Morte déborde, ces eaux se répandent dans les terrains bas qui l'entourent, puis, en été, avec la sécheresse, ces étangs s'évaporent en laissant une épaisse couche de sel. Ézéchiel a vu ces petits lacs qui sont séparés du bassin principal. Je continue. Le long du torrent, sur chacune de ses rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers dont le feuillage restera toujours vert et dont les fruits ne s'épuiseront jamais. Chaque mois, ils porteront de nouveaux fruits grâce aux eaux provenant du sanctuaire qui les arroseront. Leurs fruits seront bons à manger et leurs feuilles serviront de remède. Cette rivière, source de prospérité et de santé permanente, produit des conditions de vie paradisiaques qui rappellent le jardin d'Éden. Je continue en compressant. Vous délimiterez les lots du pays pour le partager entre les 12 tribus d'Israël, chacun ayant une part équivalente à celle de l'autre, car j'ai juré de le donner à vos ancêtres, et il vous reviendra comme patrimoine. Ézéchiel revient au pays d'Israël, tout comme Dieu entre dans son repos en prenant possession de son temple. Ainsi, le peuple élu n'entrera dans son repos qu'une fois que son pays sera réellement à lui. La nouvelle terre promise fera environ 220 km de long et 66 de large. Elle est donc plus grande que le pays délimité par Dieu à Moïse. Contrairement à la répartition faite par Josué, chaque tribu reçoit un territoire équivalent et qui fait environ 1090 km², un chiffre qu'on obtient après avoir soustrait les superficies de la partie centrale, c'est-à-dire le temple, la ville sainte et ses terrains, ainsi que les patrimoines du prince, des lévites et des prêtres. La suite du texte établit les limites de chaque tribu. Elles sont sensiblement remaniées par rapport à ce qu'elles étaient du temps de David et Salomon. De plus, les territoires à l'est du Jourdain ne sont pas inclus. Je continue plus loin et finis de lire le chapitre 47. Vous partagerez ce pays entre les tribus d'Israël. Vous le répartirez en tirant au sort les parts d'héritage pour vous et pour les étrangers qui résident au milieu de vous et qui ont eu là des enfants. Vous les traiterez comme les Israélites de souche. Ils tireront leur part au sort avec vous au milieu des tribus d'Israël. C'est dans la tribu même où l'étranger est installé que vous lui donnerez un patrimoine. Le Seigneur le déclare. Puis tous ceux qui entrent dans le millénium sont croyants. Ces étrangers qui habitent au milieu d'Israël sont peut-être ceux qui ont risqué leur vie en protégeant les Juifs pendant les persécutions de l'Antichrist. Nous arrivons au dernier chapitre du livre d'Ézéchiel, où il donne les limites des 12 tribus, celle de la partie centrale consacrée à l'Éternel, les limites du domaine du prince, ainsi que les dimensions de Jérusalem avec ses 12 portes, Le pays est divisé en bandes horizontales parallèles de même dimension. Les tribus des servantes de Rachel et Léa, les deux femmes de Jacob, se trouvent aux extrémités du pays. Sept tribus sont au nord du complexe du temple et six au sud. Tout en haut se trouve Dan, puis vient Aser, fils de la servante de Léa. Il est placé entre les deux fils de la servante de Rachel. Dan, déjà cité, et Nephtali en dessous. Les tribus suivantes sont Manassé, puis Éphraïm, fils de Joseph. Elles se suivent comme autrefois, mais elles sont plus au nord qu'auparavant, parce qu'elles remplacent les tribus de Zabulon et d'Issacar, envoyées dans la partie sud. Ensuite vient Ruben, qui est prudemment interposé entre les deux tribus jadis rivales, Éphraïm et de Juda, qui est transporté au nord. Puis nous arrivons à la partie centrale qui comprend le complexe du temple avec les habitations des prêtres. Les propriétés des Lévites leur sont juxtaposées au nord. Et Jérusalem, avec ses terrains agricoles pour nourrir la ville, sont au sud du temple. Cet ensemble central forme un carré de 13,5 km de côté. De part et d'autre de ce carré, les deux bandes de terrain, l'une allant jusqu'à la Méditerranée et l'autre jusqu'au Jourdain, sont la propriété du prince. Elles sont chacune environ 14 km du nord au sud et 25 d'est en ouest. Comme les deux moitiés du domaine du prince sont de chaque côté du carré sacré, par sa position, il est le protecteur du sanctuaire. Au sud du complexe du temple se trouvent dans l'ordre, en descendant, les tribus de Benjamin, Siméon, Issacar, Zabulon et enfin Gad, qui est à l'extrême sud. Une fois le partage du pays terminé, ce sont les portes d'entrée de la ville sainte qui sont décrites. Je lis quelques versets. Du côté nord se trouveront les portes de Ruben, de Juda et de Lévi. Du côté est, celles de Joseph, de Benjamin et de Dan. Du côté sud, les portes de Siméon, d'Issacar et de Zabulon. Et du côté ouest, celles de Gad, d'Aser et Nephtali. La capitale du millénium n'est plus comme auparavant située dans le territoire de l'une des tribus. Ces 12 noms sont des mentions honorifiques qui représentent les 12 fils de Jacob et non pas les 13 tribus. Les 3 portes du nord et les 3 du sud reçoivent les noms des 6 fils de Léa. Ruben, Juda, Lévi sont placés au nord. Siméon, Issacar et Zabulon au sud, comme ils le sont dans la répartition du pays. Les 3 premiers, situés au nord, ont une place plus honorable. Ruben, comme étant le premier-né, Juda, comme ayant reçu par la bénédiction de Jacob le rang de premier-né, et Lévi, comme représentant les premiers-nés d'Israël. À l'est, et occupant ainsi une position privilégiée, se trouvent Joseph et Benjamin, les deux fils de Rachel, la femme préférée de Jacob, ainsi que Dan, fils aîné de la servante de Rachel. Enfin, les 3 derniers mis à l'ouest sont les 3 autres fils des deux servantes. Le chapitre 48 et le livre d'Ézéchiel se terminent ainsi. Et le nom de la ville sera désormais Yahweh Shama, c'est-à-dire l'Éternel est ici. La gloire de Dieu qui avait quitté Jérusalem est désormais de retour. En la personne du Messie, l'Éternel est non seulement dans le temple, mais aussi dans la ville sainte. Toutes les promesses faites par Dieu à Israël ont été tenues. L'Éternel est ici, et le couronnement de l'histoire d'Israël.